Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez délicat, la diplomatie du Vatican pendant la guerre froide.
Oui, et plus précisément, la politique de Paul VI face aux pays communistes de l'Est, la fameuse Ostpolitik.
Exactement. On va s'appuyer sur une analyse assez critique, d'ailleurs, de Florian Rouanet pour Intégralisme organique, pour essayer de comprendre un peu les enjeux.
C'est ça. Il faut resituer Paul VI, donc Montini. Il venait d'un milieu, bon, démocrate chrétien, pas du tout marxiste en soi. Mais il avait une certaine sensibilité au catholicisme social.
D'accord. Mais alors, comment expliquer ces accusations, parfois virulentes, de la part de certains milieux traditionnalistes? On l'a accusé de quasi-sympathie communiste. Oui, enfin, ces accusations reposent souvent sur des témoignages indirects, des rencontres supposées secrètes. C'est assez difficile à prouver formellement. Mais le malaise était réel chez ceux qui voyaient d'un mauvais œil tout dialogue avec le communisme.
Surtout que l'Église était persécutée à l'Est, c'est ça le paradoxe. Alors cette Ostpolitik, c'était quoi concrètement? Quelle était l'idée derrière?
C'était, comment dire, la continuation d'une politique initiée par Jean XXIII. L'idée affichée, c'était le pragmatisme, maintenir une présence pastorale minimale, un lien, même ténu, avec les catholiques derrière le rideau de fer.
Une présence minimale, mais ça s'est traduit par des gestes diplomatiques assez forts, non? Je pense à cette rencontre avec Gromyko, le ministre soviétique.
Absolument. En 1966, une audience privée. Ça a fait beaucoup de bruit. Il y a des télégrammes d'ambassadeurs, des articles de presse de l'époque qui en témoignent. C'était un signal clair d'ouverture.
Et ce n'était pas isolé, si je comprends bien.
Non, pas du tout. Il y a eu aussi Ceaușescu, le dirigeant roumain, en 73, et Podgorny, le président soviétique, en 67, et même Tito, le yougoslave, en 71. Des rencontres très médiatisées, à chaque fois.
Impressionnant. Mais il y a aussi cet épisode plus controversé. L'accord de Metz, juste avant le Concile Vatican II en 62. Qu'est-ce que c'était exactement?
Alors là, on est dans quelque chose de moins officiel. Ce serait un accord tacite, donc non écrit, entre le cardinal Tisserand, pour le Vatican, et le métropolite Nicodime, de l'Église orthodoxe russe, qui était très, très lié au Kremlin, il faut le dire.
Un accord tacite. Pourquoi faire?
Pour permettre la venue d'observateurs orthodoxes russes au Concile. Et la contrepartie, ce serait...
Le silence du concile sur le communisme.
Attendez, le silence. Ne pas condamner le communisme athée et persécuteur en échange d'observateurs?
C'est en tout cas l'interprétation qu'en font les critiques, comme l'historien Roberto de Matte qu'on trouve dans la source. Il parle de pacte honteux, l'idée que le Vatican aurait en quelque sorte muselé sa propre voix.
Si c'est avéré, c'est énorme. Et quels ont été les résultats concrets de cette hausse politique au final? Est-ce que ça a vraiment aidé les catholiques de l'Est?
Le bilan est mitigé. Très mitigé même. Il y a eu quelques nominations d'évêques, oui, en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, mais le contrôle de l'État restait total.
Et il y a même eu ce voyage papal en Pologne qui a été annulé, c'est ça? Oui, en 1966. Annulé sous la pression de Moscou. Ça montre bien les limites de ce dialogue. Les défenseurs, comme l'historien Fejerdi, disent que c'était le moindre mal, la seule chose possible à faire.
Le moindre mal. Mais à l'intérieur même de l'Église, ça n'a pas fait l'unanimité, loin de là.
Ah non? Des figures comme le cardinal Mincenzi, lui qui avait été emprisonné par les communistes en Hongrie, il a parlé de trahison clairement. Le cardinal Siri, à Gênes, était aussi très critique. Il voyait un risque de compromis doctrinal.
Et les traditionnalistes, comme Mgr Lefebvre, allaient encore plus loin, j'imagine.
Pour eux, c'était la preuve d'une sorte de démolition de l'Église, d'une rupture avec la tradition. Ils opposaient cette ostopolitique à la condamnation très ferme du communisme par Pie XI dans l'encyclique Divini Redemptoris.
Qui qualifiait le communisme d'intrinsèquement pervers, si je me souviens bien.
Exactement. Donc, on voit bien le fossé. D'un côté, une condamnation doctrinale sans appel. De l'autre, une politique de dialogue, de silence stratégique menée par Paul VI.
Donc, pour résumer, Paul VI n'était sans doute pas marxiste lui-même, mais il a fait ce choix diplomatique. Le choix du silence sur le communisme, en rupture avec ses prédécesseurs.
C'est ça. Un choix justifié par le pragmatisme, la volonté de maintenir un lien pastoral. Mais un choix qui a été vécu par beaucoup comme un abandon, une compromission, voire pour certains, un pacte coupable.
Et le fait indéniable, c'est ce silence du Concile Vatican II sur le communisme. Un silence assumé par Paul VI.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question toujours actuelle finalement. Oui, jusqu'où peut aller le dialogue diplomatique? surtout avec des régimes qui bafouent les droits humains et persécutent les... Où est la limite entre le réalisme politique et la compromission morale?
Et quel point donner au silence face à la parole quand il s'agit de témoigner d'une vérité ou de soutenir ceux qui souffrent? C'est une question vraiment complexe.
Absolument. Une question qui dépasse largement le cadre de l'ostpolitik de Paul Weiss et qui continue de se poser aujourd'hui dans bien d'autres contextes. Matière à réflexion.